L'heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Toute la Macronie a décidé de faire bloc ce matin autour de l'un de ses piliers, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, que l'affaire des mutuelles de Bretagne est revenue hantée hier avec sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le quatrième personnage de l'État a lui-même fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de démissionner de ses fonctions.
Édouard Philippe détaille depuis ce matin le calendrier et la méthode de la réforme des retraites.
Oui, celle-ci n'est pas écrite, a notamment insisté le Premier ministre avant de préciser « Nous sommes prêts à prendre le temps qu'il faudra ».
Et dans cette édition également, le Royaume-Uni, où Boris Johnson se retrouve à nouveau confronté ce matin à de vives critiques.
En cause, la publication d'un rapport gouvernemental alarmant selon lequel un Brexit sans accord pourrait provoquer des pénuries de nourriture et de médicaments. La mort d'un géant fragile, icône du rock alternatif, chanteur du lo-fi, mais également peintre et poète, Daniel Johnston s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 58 ans. Enfin, l'invité politique de la rédaction, dans une vingtaine de minutes, Fabien Roussel, député secrétaire national du Parti communiste. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Où nous parlerons manipulation du vivant avec notre invitée, la biologiste Nicole Ledouarin, qui reviendra également sur son parcours, plus de 40 ans maintenant de recherche qu'elle pratique et qui lui a valu une médaille d'or du CNRS pour ses travaux en biologie du développement.
Merci et à tout à l'heure. C'est évident, le président Richard Ferrand doit rester dans ses fonctions. À tous ceux qui pouvaient encore éventuellement douter de l'opportunité pour le président de l'Assemblée nationale d'occuper le perchoir après sa mise en examen hier pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, le président du groupe LREM à l'Assemblée, Gilles Legendre, a apporté un ferme démenti ce matin. Sa mise en examen ne préjuge en rien de sa culpabilité et je ne doute pas un seul instant que l'examen des faits démontrera son intégrité, a-t-il précisé, même son de cloche du côté de l'Élysée. Où le président Emmanuel Macron a fait savoir qu'il soutenait fermement le quatrième personnage de l'État. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors en dépit de toutes ces marques de soutien, il n'en reste pas moins que la mise en examen inédite d'un président de l'Assemblée nationale pendant son passage au perchoir, lequel a qui plus est succédé à un certain François de Rugy, constitue un vrai coup dur pour la majorité. Mais au-delà, Stéphane, le soutien donc d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Richard Ferrand, c'est-à-dire d'un président de la République au président de l'Assemblée nationale, ne vient-il pas poser aussi la question de la séparation des pouvoirs ?
Oui, que le chef du pouvoir exécutif, à savoir le président de la République, demande à un ministre de démissionner ou au contraire lui apporte son soutien, c'est dans l'ordre des choses. En revanche, qu'il estime être dans ses attributions de sanctionner ou de soutenir le président de l'Assemblée nationale, autrement dit le chef du pouvoir législatif, c'est beaucoup plus problématique si l'on considère nécessaire le maintien d'une frontière entre les différents pouvoirs, principe fondamental des démocraties représentatives. Car avec ce soutien affiché du chef de l'État, il apparaît que le maintien ou non de Richard Ferrand au perchoir à l'Assemblée dépend du bon vouloir du président de la République et donc que le pouvoir législatif en France est aujourd'hui sous la tutelle du pouvoir exécutif. Et ça, c'est dû d'abord au fait que la Ve République confie énormément de pouvoir entre les mains d'un seul homme, mais ça a été renforcé par deux évolutions relativement récentes du calendrier électoral. D'abord l'instauration du quinquennat qui a fait coïncider l'élection présidentielle avec l'élection des députés, et puis l'inversion du calendrier qui prévoit que les législatives ont lieu juste après la présidentielle et qui fait que ces législatives sont aujourd'hui uniquement une validation du scrutin présidentiel, une manière de donner au président fraîchement élu une majorité à l'Assemblée. De ce processus découle qu'il n'y a plus vraiment de frontières, que le pouvoir exécutif a pleinement la main sur le pouvoir législatif. Dans ces conditions, le président de l'Assemblée nationale ne semble pas vraiment indépendant. On peut considérer que sa fonction s'apparente à celle d'un ministre qui aurait pour rôle d'encadrer et de discipliner la majorité présidentielle à l'Assemblée. Dès lors, on peut s'interroger pourquoi ne s'appliquerait pas à Richard Ferrand la règle édictée par Édouard Philippe pour les membres de son gouvernement, à savoir que si un ministre est mis en examen, il démissionne.
Merci Stéphane Robert. Alors on rappellera que cette affaire des mutuelles de Bretagne avait conduit ce fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron à quitter le gouvernement. C'était en juin 2017, à peine nommé ministre de la Cohésion des Territoires. Il avait été épinglé par le canard enchaîné qui avait révélé qu'en 2011, les mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait à l'époque avaient décidé de louer des locaux commerciaux appartenant à sa compagne. Le procureur de Brest avait alors ouvert une enquête préliminaire, classée finalement sans suite il y a 2 ans. La justice avait invoqué la prescription s'agissant d'un éventuel délit de prise illégale d'intérêt. Sauf que l'association anticorruption Anticor avait ensuite déposé une seconde plainte avec constitution de partie civile, d'où cette mise en examen. Je vous propose d'écouter l'avocat d'Anticor, Jérôme Carsenti, pour qui il ne fait aucun doute aujourd'hui que Richard Ferrand doit démissionner en raison de l'équilibre des pouvoirs et de la manière dont les institutions doivent fonctionner. Il est interrogé par Antoine Marette.
Il ne s'agit pas de mettre en cause sa présomption d'innocence. Il s'agit simplement de se dire qu'une mise en examen, c'est une avancée dans une procédure judiciaire qui dit quelque chose sur les charges existantes dans un dossier. Et qu'à ce titre, on a quelqu'un qui ne peut plus, de façon sereine, exercer ses missions. Il faut rappeler quand même que c'est une jurisprudence, entre guillemets, qui a été appliquée par nombre d'hommes politiques, y compris par M. Ferrand lui-même, qui n'était pas entré au gouvernement de M. Macron alors même que cette affaire ne faisait que débuter et qui avait refusé le perchoir alors même que cette affaire ne faisait que débuter. Et aujourd'hui, qu'il y aurait une mise en examen, alors ça n'aurait plus d'importance. On voit bien que là, il y a une forme d'incohérence, en tout cas, de la stratégie ou de la position de M. Ferrand.
Comment expliquer cette mise en examen après un classement sans suite il y a 2 ans pour l'ensemble des griefs de la première plainte ?
Vous savez, Anticor, on est habitué à lutter. À lutter d'abord contre le ministère public, le procureur dans la République. Il faut se souvenir qu'il y a 15 ans, au tout début d'Anticor, notre premier adversaire, c'était le procureur de la République, qui a toujours défendu les intérêts, entre guillemets, des personnalités politiques de premier plan. Et là, on a un procureur de la République de Brest, qui n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Un procureur de la République est une autorité judiciaire qui est sous le contrôle du pouvoir exécutif. Il n'a pas les garanties de l'indépendance qui permettent de s'assurer que la décision est prise en toute objectivité. Et c'est pour ça que nous avons souhaité déposer une plainte avec constituant de partie civile pour qu'un juge d'instruction soit désigné et qu'un juge indépendant puisse se faire sa propre approche de ce dossier.
Voilà, Jérôme Carsentier, avocat d'Anticor, il répondait à Antoine Marette. Alors c'est donc dans ce contexte que l'on qualifiera de chahuté pour la majorité que le gouvernement a pas compté se retrouve lui à devoir dessiner sa refonte du système de retraite. Ce matin, Édouard Philippe, désireux d'expliquer autant que de rassurer sur les ambitions du gouvernement, a présenté le calendrier et la méthode de cette réforme hautement inflammable, comme en témoigne d'ailleurs la journée de blocage dans les transports parisiens prévue demain et qui s'annonce massive, la plus forte mobilisation même à la RATP depuis la grève de 2007. C'était déjà contre la réforme des régimes spéciaux de retraite sous la présidence Sarkozy. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Que faut-il retenir, Anne, de l'intervention ce matin du Premier ministre qui, à bien des égards, ressemblait à une opération déminage?
Oui, exactement. Plusieurs mains ont été tendues. D'abord sur les régimes spéciaux qui concernent les agents de la RATP qui se mobilisent demain. Tant qu'une solution satisfaisante ne sera pas trouvée pour ces personnels, le nouveau système ne leur sera pas appliqué, explique le Premier ministre, qui a parlé aussi des enseignants chercheurs et des aides-soignants. Ils proposent de repenser leur carrière et leur rémunération. Et puis les indépendants ont eu droit aussi à quelques mots d'Édouard Philippe.
Si pour certaines professions, la période de transition doit être plus longue, nous l'allongerons. Je pense, par exemple, à la question des taux de cotisation pour les indépendants ou à celle des âges de départ pour les catégories actives. De la même façon, peut-être le nouveau système ne devra-t-il s'appliquer pour certains régimes qu'à des personnes plus jeune et plus éloigné de la retraite. Là-dessus, je l'ai dit au commissaire, je n'ai aucun tabou.
Aucun tabou donc, et en plus, le gouvernement se donne du temps. Le projet de loi ne sera pas voté avant l'été prochain. Édouard Philippe insiste également, il ne s'appliquera pleinement qu'en 2040. Et concernant la méthode maintenant, c'est aussi très collégial. Dès la semaine prochaine, il y aura un premier cycle de discussion et d'écriture avec les partenaires sociaux, car le projet de loi n'est pas encore écrit, a dit Édouard Philippe. Il y aura donc 4 grands thèmes pour organiser cette concertation, les mécanismes de solidarité, les conditions d'ouverture des droits à pension, où le débat sur l'âge pivot et la durée de cotisation reviendra sur la table, les conditions du retour à l'équilibre en 2025 ou encore les modalités de transition des 42 régimes existants vers le système commun, la maison commune comme l'appelle désormais Édouard Philippe. Enfin, il y aura bien une concertation citoyenne qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Ça ne sera pas un copier-coller du grand débat, a dit le Premier ministre, mais bon, c'est le président de la République qui le lancera en personne. Et puis il y aura de nouveau une plateforme internet pour permettre aux Français de s'exprimer et des réunions publiques avec les élus.
Merci Anne Fauquemberg. La Cour de cassation a rejeté ce matin le pourvoi de l'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur, Thomas Thévenoud, moqué pour avoir invoqué une phobie administrative pour se justifier d'avoir omis de déclarer ses revenus. Une décision qui rend désormais définitive sa condamnation pour fraude fiscale. Super Mario ne pouvait pas sans doute tirer sa révérence sans un dernier coup d'éclat. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, lequel quittera ses fonctions fin octobre, doit annoncer aujourd'hui un nouveau plan de relance monétaire pour tenter d'enrayer le ralentissement de l'économie de la zone euro, restant à connaître l'ampleur, de même que la méthode employée. Au total, l'Institut pourrait annoncer pas moins de 4 mesures simultanément, une baisse des taux, de nouveaux rachats de dettes publiques et privées, un système de taux dégressifs et enfin des prêts géants pour soulager la banque. Et puis surtout, ce cocktail attendu risque de provoquer de vives réactions dans un contexte d'incertitude lié notamment à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ainsi qu'au Brexit. S'agissant justement du divorce programmé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, un rapport tenu secret jusqu'ici a été publié hier soir par le gouvernement britannique en vertu d'une loi sur la transparence. Yellowhammer, c'est son nom, liste les conséquences d'une sortie sans accord. Et c'est peu de dire que ses conclusions font tout simplement froid dans le dos. Des tensions communautaires en risque d'épidémie en passant par la pénurie de nourriture, mais aussi le blocage ou le ralentissement de l'approvisionnement en médicaments, de quoi affoler d'ores et déjà les malades. C'est un reportage à Londres signé Antoine Gignot.
Sans ces médicaments, elle pourrait perdre la vue ou l'usage de ses jambes. Wendy Novak est diabétique, branchée sur les informations 24 heures sur 24, elle aussi entre la peur et la colère.
Je suis extrêmement inquiète face à cette situation. Je prends deux sortes d'insuline, l'une que je prends avant de manger et l'autre que je prends le soir pour contrôler mon taux de sucre. Les deux médicaments viennent des Pays-Bas et personne n'a l'air de pouvoir nous garantir que l'approvisionnement va continuer et que les gens ne vont pas mourir.
Car le rapport Yellowhammer, qui liste les potentielles catastrophes d'un Brexit dur, évoque le manque probable de médicaments sans apporter de solution. Il faut d'urgence des précisions, explique Maeve Chalkwick, médecin spécialiste de la santé publique à l'Imperial College de Londres.
On n'a toujours pas de détails sur les conséquences que cela pourrait avoir. Quel sera l'impact, par exemple, du manque de médicaments, l'impact du manque de nourriture, l'impact d'une récession? Dans le rapport Yellowhammer, il est écrit que ce sont les personnes les plus vulnérables qui seront les plus touchées.
Le gouvernement, de son côté, tente d'atténuer l'impact de cette publication. Il ne s'agit que d'une hypothèse, une simulation du pire des cas, explique Ben Wallace, le ministre de la Défense.
Nous évoquions tout à l'heure la guerre des tarifs douaniers entre Washington et Pékin, même si la trêve n'a pas encore été signée. Il semble que le climat soit désormais à l'apaisement. Hier, les États-Unis et la Chine ont annoncé une pause dans l'escalade de leur guerre commerciale, ce qui devrait permettre aux responsables des deux plus grandes puissances économiques de la planète de reprendre leurs négociations début octobre. Enfin, toujours aux États-Unis, la Cour suprême a validé hier les limites du droit d'asile voulu par Donald Trump. La plus haute instance judiciaire donne ainsi la permission au président de faire appliquer ces restrictions les plus dures à ce jour, en particulier le rejet automatique de toutes les demandes d'asile déposées par des migrants n'ayant pas sollicité le statut de réfugié au Mexique ou dans des pays tiers traversés durant leur exil vers les États-Unis. Une mesure qui, selon les organisations de défense des droits civiques et humains, revient à exclure des procédures d'asile l'écrasante majorité des demandeurs arrivant à la frontière des États-Unis en provenance d'Amérique centrale. Benjamin Netanyahou est attendu en Russie aujourd'hui pour y rencontrer Vladimir Poutine. Alors pourquoi un tel déplacement loin, très loin d'Israël, à seulement 5 jours des élections législatives? Sans doute la réponse est-elle à trouver du côté de cette frange importante de l'électorat israélien que sont les personnes originaires d'ex-URSS. D'autant que jusqu'ici, ces derniers ont toujours préféré la personnalité d'Avigdor Lieberman, devenu le grand rival de Bibi à droite, et notamment depuis les dernières élections et son refus de faire alliance avec Netanyahou et les partis religieux, ce qui en l'occurrence avait obligé le Premier ministre à convoquer de nouvelles élections. Les explications depuis Jérusalem de notre correspondant Frédéric Mettezo.
1 million d'Israéliens sont originaires des anciennes républiques soviétiques. Leur vote est moins homogène qu'avant, mais la majorité préfère toujours le bulletin Lieberman. Un hébreu avec accent moldave, une carrure de videur de boîte de nuit qu'il a été plus jeune, Lieberman se verrait bien barrer le chemin à Benjamin Netanyahou. Longtemps, il a été son proche collaborateur, puis son ministre, mais aujourd'hui, il l'accuse de faiblesse face aux religieux et fait campagne pour un Israël laïque. Olivier Rafovitz est candidat sur la liste Lieberman.
La loi doit être civile, la Torah étant la Bible. Mais c'est pas elle qui doit gérer l'État d'Israël. Nous sommes en 2019 et nous voyons Israël comme un pays moderne, libéral, juif, démocratique. Et aujourd'hui, nous voulons, il veut, une réunion des forces sionistes pour revenir à ce sionisme du début. un sionisme de Menachem Begin, de Ben Gurion, Yitzhak Rabin.
Le camp Lieberman invoque des grandes figures de gauche pour faire oublier ses discours anti-arabes d'extrême droite. Alors que Netanyahou veut séduire les russophones les plus à droite en rencontrant Poutine, son ancien Rasputin préfère lui se tourner vers les libéraux. Lieberman pourrait doubler son nombre de députés et devenir incontournable dans la prochaine assemblée.
Son nom est presque aussi improbable que les spéculations qu'elle a fait naître sur un nouveau monde favorable à la vie hors de notre système solaire grâce au télescope spatial Hubble. Des astronomes ont pu constater que K2-18b, découverte en 2015, possédait une atmosphère contenant de la vapeur d'eau, une découverte prometteuse et qui propulse désormais cette exoplanète très lointaine située à plus d'un million de milliards de kilomètres de la Terre au rang de meilleure candidate pour la recherche de signes de vie extraterrestres. Lui aussi semblait tout droit venu d'une autre planète et faisait surtout partie de ces musiciens et artistes aussi prolifiques qu'inclassables. L'énigmatique auteur, compositeur et dessinateur américain Daniel Johnston est décédé la nuit dernière d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Alors en près de 40 ans de carrière et plus encore à lutter contre un syndrome maniaco-dépressif, Johnston avait réussi avec ses compositions souvent artisanales entre pop et country à bâtir un univers poétique absolument unique, à la fois aigu et naïf, drôle autant que dépressif. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour Thomas et bonjour à tous.
Objet de culte, notamment dans le milieu rock alternatif, la liste des admirateurs de Daniel Johnston suffit à elle seule à rendre compte de ce que représentait donc cet artiste iconoclaste, de Beck à Tom Waits en passant par Hills, Sonic Youth, sans oublier bien sûr un certain Kurt Cobain qui avait contribué d'ailleurs à le faire connaître mondialement en portant fièrement ce fameux t-shirt flanqué du dessin de la pochette d'un album de Johnston.
Hi, how are you? Every morning we got up.
Thomas, c'est un journal intime qui vient de se refermer. Johnston, comète bouleversante, Neil Young, Topor et Artaud dans un cœur meurtri, une âme déchirée. En 2006, une télévision néerlandaise diffuse un documentaire où l'artiste évoque son adolescence.
Quand je suis entré au collège, j'étais comme foudroyé. J'ai été désorienté, je ne pouvais plus parler à mes amis. Je me suis tourné vers l'art, je suis devenu solitaire. J'allais dans les bibliothèques où il y avait beaucoup de livres et je cherchais les livres sur l'art, j'écoutais des disques. Et puis je me suis mis à l'écart, je ne pouvais plus parler à personne, je devais rester seul, il n'y avait aucune raison à cela, enfin bon, c'est comme si j'étais mort.
Entre deux hospitalisations, Daniel Johnston dessine tant et plus, travaille clavier qu'il effleure beau et guitare, une fleur à chaque mot articulé dans la douleur. Johnston passe ses errances au scanner, griffonne ses démons et empile des cassettes. Le titre de la première, Songs of Pain, 1981.
Try to remember, but my feelings can't know for sure. Try to reach out.
More Songs of Pain en 1983. Cette même année 83, profuse parmi bien d'autres, il donnera naissance à l'un de ses joyaux, Hi, how are you? Prince de l'autoproduction, Johnston ne sera ni rockstar, ni icône de la romance folk. Il fut tout simplement de son vivant une légende.
Don't wanna be free of hope.
Brian Betty en a mis toujours à cette phrase aujourd'hui dans un grand journal d'Austin. Quand vous l'écoutiez, vous étiez dans la peau d'un voyeur. Daniel Johnston a eu, lui, des visions, des démons, des angoisses, des délires. L'élégance d'une vie en vain.
Merci Mathieu Laurent. Comme chaque jeudi à présent, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Fabien Roussel, député secrétaire national du Parti communiste. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Une première question monsieur Roussel. S'agissant de la mise en examen de Richard Ferrand, comment expliquez-vous que la jurisprudence qui veut qu'un ministre mis en examen démissionne ne s'applique pas pour un président de l'Assemblée nationale, un personnage de l'État a priori au moins aussi important ?
Ben, je l'explique pas. C'est que je pense que quand justement le Édouard Philippe dit en juin 2017 un ministre mis en examen doit démissionner, eh bien la moindre des choses, c'est qu'il l'applique. Et le drame de notre pays, c'est que aujourd'hui, il n'applique pas ce genre de sanctions et que les Français disent, eh ben voilà, encore une fois, une exception, les élus, les politiques, ils se protègent entre eux, ils sont pas exemplaires. Il y a un devoir d'exemplarité à avoir. Les Français veulent que les politiques lavent plus blanc que blanc. D'accord, allons-y. Exemplarité, lavons plus blanc que blanc, appliquons-le nous. Et donc, si j'étais à sa place, je démissionnerais pour justement être exemplaire.
Question de Sophie Delpont.
Fabien Roussel, bonjour. À propos de la réforme des retraites, Édouard Philippe a annoncé le calendrier et la méthode des consultations citoyennes de fin septembre jusqu'à la fin de l'année, avant d'aboutir à un projet de loi voté d'ici la fin de la session parlementaire l'été prochain. Le Premier ministre qui déclare « je n'ai aucun tabou ». Pour vous, reste-t-il une marge de manœuvre pour exister dans le débat ?
Alors, s'il n'a aucun tabou, qu'il mette en débat la proposition que nous faisons de faire cotiser les rentiers, les revenus financiers, les dividendes qui sont distribués et qui, il n'y en a jamais eu autant. Et donc c'est ce que nous proposons, nous, dans une véritable réforme des retraites, digne de ce 21e siècle, digne d'Ambroise Croizat, qui a fondé notre système de sécurité sociale en 1945, c'était le programme des jours heureux. Eh bien, c'est l'heure aujourd'hui de rebâtir un programme des jours heureux, nous y croyons, avec une vraie réforme des retraites et qui fasse cotiser tout le monde. Parce que le Premier ministre dit qu'il n'y a pas de tabou, mais il ne s'attaque pas à ses revenus financiers qui ne cotisent pas au système de retraite. Et donc sa réforme des retraites, c'est travailler plus longtemps, c'est gagner moins, et c'est ne pas toucher à ce financement, à cette part du capital qui ne cotise pas. Il fait peser la réforme de retraite que sur les travailleurs, en faisant ou allonger la durée de la cotisation, ou allonger l'âge de départ en retraite. Pour moi, dans les deux cas, il y a allonger. Hein. Et allonger, ça veut dire travailler plus. Eh bien ça, on n'en veut pas. C'est pas le sens du progrès de l'humanité aujourd'hui. Nous, on veut une retraite à 60 ans et faire en sorte que la deuxième partie de la vie soit une belle partie de la vie. Soit encore du bonheur et du temps consacré à la société, mais pas être exploité. Et donc, on veut une retraite à 60 ans et garantie.
Fabien Roussel, la fête de l'UMA commence demain au parc de la Courneuve. 400 stands, plus de 500 invités annoncés, notamment la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens. C'est une manière, cette fois-ci, d'essayer de renouer un dialogue. On se souvient de l'année dernière, l'ambiance glaciale qu'il y avait eu à la fête de l'UMA. La gauche qui était divisée aux élections européennes. Là, on essaie de relancer une dynamique, travailler ensemble.
Oui, il y a aussi Olivier Faure, il y a Cormand, des Verts, il y a, et puis il y a de nombreux responsables syndicaux, du mouvement associatif, des ONG, il y a une marche pour le climat demain soir. La fête de l'UMA, c'est une fête unique qui existe d'ailleurs grâce aux 10 000 militants de l'idéal communiste qui organise cette fête. C'est des spectacles et c'est des débats. Donc oui, nous allons nous retrouver. Je pense que ça va être l'occasion de débattre sur des grands sujets tels que la réforme des retraites, tels que les moyens à mettre en œuvre pour sauver le climat ou pour obtenir ce référendum contre la privatisation d'ADP. De tout cela, nous allons parler ensemble. Et peut-être que nous arriverons à montrer que nous avons de nombreuses convergences ensemble et que la gauche pourra de nouveau faire rêver.
Vous parliez de ce RIP, le référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris. 761 000 signatures engrangées aujourd'hui. On est encore très loin du compte. On doit atteindre, pour obtenir ce texte, ce vote, 4,7 millions de signatures. Comment faire ?
Eh ben, ça fait 50 000 signatures de plus en 4 jours. Ça redémarre, ça repart. Il y a eu un petit creux pendant l'été. À ce rythme-là, le million de signatures sera atteint d'ici fin octobre, début novembre. Et donc nous demanderons au président de la République de tenir l'engagement qu'il prend dans le cadre de la réforme constitutionnelle. C'est qu'à partir de 1 million de signatures de nos concitoyens, un référendum doit pouvoir se tenir. Et nous voulons avoir un débat public sur ces services publics qui sont pour nous les biens de la nation. Que ce soit nos aéroports, nos ports, nos barrages, ils doivent rester les biens de la nation. Ayons ce débat-là, c'est pour nous très important et nous demandons juste d'obtenir un référendum sur cette question.
À propos des élections municipales, l'échéance cette année pour vous, alors on avait atteint pour le Parti communiste seulement 2,5% des voix aux élections européennes. La tendance aux dernières élections municipales, notamment la ceinture rouge de la banlieue parisienne qui s'était encore étiolée, Bobigny, Saint-Ouen, Le Blanc-Mesnil, autrefois bastion communiste, avait basculé à droite. Aubervilliers avait été récupéré. Comment comptez-vous faire votre place, essayer de conserver ces bastions, peut-être des alliances envisager que la France insoumise, même si pour l'instant ça n'a pas trop l'air d'être le cas.
Bah, écoutez, moi, je travaille avec l'ensemble des forces de gauche pour dire que si nous arrivions à être unis ensemble sur des projets attendus par les habitants de chacune des villes, et ils sont différents en fonction des villes, si nous arrivons à être unis dès le premier tour, nous pouvons montrer que la gauche, unie, combative, authentique, sait et répondre aux problèmes des gens, mais aussi être capable de battre la droite et l'extrême droite.
Ce n'est pas le cas à Paris, donc, là, pour l'instant, ordre dispersé.
Et donc, c'est le travail inlassable que nous allons faire. Je rappelle aussi qu'il y a dans notre pays, sur 36 000 communes, il y en a 35 000 de moins de 5 000 habitants. Et là, ce n'est pas histoire d'alliance, c'est histoire de listes qui portent des projets, qui répondent aux besoins des gens. Nous voulons défendre la commune, redonner des moyens aux communes, parce que c'est pour nous l'échelon le plus important, le plus démocratique, celui qui permet le mieux de répondre aux besoins de nos habitants.
Merci Fabien Roussel, député, je le rappelle, et secrétaire national du Parti communiste d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Sophie Delpont. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Contrasté avec le retour du soleil dans le sud, un ciel plus couvert sur le reste du pays quant aux températures. Elles afficheront entre 19 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.